L'islam se donne la noble ambition de toujours défendre l'honneur de Dieu. Peut-on trouver une plus grande proclamation de la grandeur de Dieu que celle que nous trouvons dans la sourate 2 du Coran, ayat 255 ? Allah, point de divinité à part lui, le vivant, celui qui subsiste par lui-même. Ni somnolence ni sommeil ne le saisissent. À lui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission? Il connaît leur passé et leur futur. Et de sa science, eux, il n'embrasse que ce qu'il veut. Son trône déborde les cieux et la terre, dont la garde ne lui coûte aucune peine. Et il est le Très-Haut, le Très-Grand. Nous, les chrétiens, nous sommes tout à fait d'accord avec cette conception élevée du Dieu Tout-Puissant. Il est infiniment plus grand que tout ce que nous pouvons concevoir. Malheureusement, en voulant défendre l'honneur et proclamer la gloire et la majesté de Dieu, il arrive aux hommes de limiter Dieu en quelque sorte. D'un côté, on rejette ce que Dieu lui-même a révélé à son propre sujet. De l'autre côté, on dit présomptueusement des choses au sujet de Dieu que nous ne pouvons pas savoir. Lui seul peut nous faire savoir sa vraie nature. Nous savons tous que Dieu est puissant, majestueux et glorieux. Au-delà de ce que nous pouvons imaginer, il est totalement saint, juste et pur. Son autorité royale est absolue, et sa connaissance est parfaite. Quand on essaye de tenir compte de toute sa grandeur, on peut trouver qu'il serait déraisonnable, impensable qu'il se dépouille et s'humilie afin de prendre la forme d'un homme mortel et méprisable, afin de vivre parmi des pécheurs, afin même de souffrir pour eux. Il ne convient pas à l'être suprême de mettre de côté sa dignité et de s'humilier ainsi. Mais ce n'est pas tout. Selon ce que disent les chrétiens, Dieu aurait permis à des hommes méchants de le maltraiter, injustement bien sûr. Il aurait torturé et finalement tué. On se dit que ce n'est tout simplement pas possible. Mais nous croyons que, puisque Dieu est totalement libre, souverain et tout-puissant, il peut faire tout ce qu'il veut faire. La seule chose qui soit impossible à Dieu serait de pécher. La Bible dit par exemple qu'il est impossible que Dieu mente. Tite 1, verset 2. Hébreux 6, verset 18. Il serait contraire à la nature du Dieu de vérité de pratiquer le mensonge. C'est le diable qui est le père du mensonge. Jean 8, verset 44. Dieu reste fidèle à son propre caractère saint, juste et fidèle. La Bible dit, « Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut renier lui-même. Que Dieu soit loué, car il ne pêche pas, et il ne peut pas pécher, car il n'est pas dans sa nature de vouloir pécher. Mais ce n'est pas un péché que d'être un homme. Pourquoi dire alors que Dieu ne pourrait pas devenir un homme s'il choisissait faire ainsi ? Si Dieu le Fils devenait un être humain, il aurait à accepter les limites de l'existence dans un corps humain. Mais il n'aurait pas besoin de cesser d'être Dieu. Selon la sourate 27, ayat 8, lorsque Moïse s'approcha du buisson ardent dans le désert du Sinaï, on l'appela « Béni soit celui qui est dans le feu et celui qui est tout autour, et gloire à Allah, Seigneur de l'univers ». Si Allah a daigné se manifester dans un feu, ne peut-il pas se manifester dans la forme d'un homme, un être humain qui est quand même plus grand qu'un feu? Remarquez que le Coran précise avec raison que même si Allah était dans le feu du buisson ardent, il continuait d'être tout autour et le Seigneur de l'univers. Pareillement, si Dieu était dans le corps de Jésus, il était en même temps partout ailleurs, et demeurait le maître de l'univers. Même quand le corps de Jésus était dans la tombe, Dieu régnait encore et remplissait l'univers. Certains musulmans protestent contre l'enseignement chrétien en disant « Si Jésus est Dieu, alors qui gouvernait l'univers pendant que Jésus était dans le ventre de Marie ou quand il était dans la tombe ?» Faisons une analogie. Si je descends au bord de mer avec un seau à la main et que je le remplis d'eau, que deviendront tous les poissons dans l'océan? Après tout, les poissons ne peuvent pas vivre sans eau, et l'eau se trouve maintenant dans mon seau. Il n'y a bien sûr aucun besoin de répondre, car tout le monde sait que mettre de l'eau de mer dans le seau n'empêche pas l'eau de remplir la mer. De même, quand Dieu était en Jésus sur la terre, étant omniprésent, Dieu était toujours partout ailleurs. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Dieu peut faire ce qu'il veut faire. La question n'est donc pas comment Dieu pourrait-il devenir un être humain, mais pourquoi Dieu accepterait-il de devenir un être humain? Bien plus, pourquoi Dieu accepterait-il de souffrir injustement et d'être mis à mort pour sauver l'humanité? On peut répondre par un seul mot, l'amour. Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Romains 5, verset 8. Si nous ne comprenons pas l'amour de Dieu, c'est peut-être parce que notre grand orgueil nous empêche de saisir l'amour divin, qui, selon 1 Corinthiens 13, versets 4 et 5, est patient, plein de bonté, ne se vante point, ne s'enfle point d'orgueil, ne cherche pas son intérêt. La nuit où Jésus fut arrêté, il était seul avec ses 12 apôtres. Depuis 3 ans, il avait enseigné ses disciples et leur avait montré comment il faut renoncer à ses propres intérêts pour servir les autres. Mais voilà que, selon Luc 22, versets 24 à 26, ses disciples n'avaient pas encore appris la leçon. Ce passage nous dit: Il s'éleva aussi parmi les apôtres une contestation. Lequel d'entre eux devait être estimé le plus grand? Jésus leur dit: Les rois des nations les maîtrisent, et ceux qui les dominent sont appelés bienfaiteurs. Qu'il n'en soit pas de même pour vous, mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit, et celui qui gouverne comme celui qui sert. Puis Jésus a posé un acte par lequel il a une fois de plus enseigné à ses disciples cette leçon importante. En Jean 13, versets 1 à 5, nous lisons: Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Pendant le souper, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin, et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Laver les pieds des autres était une marque d'hospitalité et d'amour, mais c'était une tâche très humble, accomplie généralement par la personne la moins importante, celle dont le rang était le plus bas. Parmi les disciples de Jésus qui étaient présents cette nuit-là, aucun n'avait pensé rendre cet humble service à ses camarades. Mais Jésus lui-même, le maître, s'est abaissé afin de le faire pour ses élèves. La lecture en Jean 13 se poursuit ainsi. Il vint donc à Simon Pierre, et Pierre lui dit: Toi, Seigneur, tu me laves les pieds? Jésus lui répondit: Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. Simon Pierre lui dit: Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. Jésus lui dit: Celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous. Car il connaissait celui qui le livrait. C'est pourquoi il dit: Vous n'êtes pas tous purs. Nous pouvons bien comprendre la réaction de Pierre. Il ne semblait pas normal pour le Seigneur de faire pour ses disciples ce qui était la tâche d'un esclave. Jean-Baptiste avait dit qu'il n'était pas digne même pour être l'esclave de Jésus, pas digne de délier la courroie de ses sandales pour laver ses pieds. Il n'était pas digne de servir Jésus. À plus forte raison, il n'était pas digne de se faire servir par Jésus. C'est le sentiment de Pierre aussi. Pour lui, comme pour les hommes de nos jours, un grand personnage, un homme très important, ne devait pas avoir à faire des tâches humbles. Ce sont les autres qui devraient servir une telle personne. Cela fait partie des droits liés à sa position. Combien plus ce serait vrai si on parlait de Dieu? Les premiers versets du chapitre nous ont rappelé que Jésus était bien conscient de sa position en tant que fils de Dieu. Il savait qu'il devait être bientôt glorifié, qu'il était venu de Dieu le Père, et qu'il retournait vers Dieu le Père, qui avait tout remis entre ses mains. Mais il ne s'accrochait pas à ses droits. Comme Philippiens 2, versets 7 et 8 nous dit, « Il s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même la mort de la croix. » Pour Jésus, il n'y avait pas de conflit entre la grandeur et le service aux autres. Il dit en Marc 10, verset 45, « Le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. » Quand Pierre a voulu refuser d'avoir les pieds lavés par Jésus, le Seigneur lui a dit, « Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. » Ensuite, il a parlé d'être non pas propre, mais entièrement pur. En effet, ce ne sont pas les pieds de Pierre qu'il a en vue, mais son âme. Jésus lave ses disciples et les rend purs par son sang, par sa mort sur la croix. Laver les pieds de ses disciples pouvait sembler un service trop humiliant pour être accepté, mais être arrêté, insulté, battu et cloué sur une croix serait 100 fois plus humiliant. Pourtant, Jésus était prêt à subir tout cela. Et celui qui ne peut pas accepter que Jésus souffre ainsi pour lui ne pourra jamais être purifié de ses péchés. Il n'y a pas d'autre solution. Si Pierre ne peut pas accepter que Jésus lui lave les pieds, comment acceptera-t-il que Jésus meure pour lui? Il faut nous laisser servir. Il faut nous laisser sauver par Jésus, qui est Dieu le Fils. Un enseignement fondamental du christianisme, c'est que la plus grande action qu'une personne peut faire, c'est de servir, au point même de mourir pour les autres. Ce désintéressement, cette humilité et cet amour plein d'abnégation est au cœur de Dieu. Dieu est tellement grand qu'il s'est humilié pour se rendre serviteur. Le Créateur de l'univers a montré sa grandeur dans l'humilité, le service et l'amour. Nous avons commencé avec cette pensée, en voulant défendre l'honneur et proclamer la gloire et la majesté de Dieu, il arrive aux hommes de limiter Dieu en quelque sorte. Lui seul peut nous faire savoir sa vraie nature. C'est à lui de nous dire si son unité est simple ou complexe. Nous ne devons pas nous étonner de ce que Dieu, le Dieu infini, soit plus complexe que nous, plus difficile à saisir. Ayons donc de l'humilité quand nous parlons de lui. Nous devons aussi faire très attention avant de proclamer ce que Dieu ne peut pas être ou ne peut pas faire. Sommes-nous, avec notre intelligence et connaissance limitées, capables d'être les juges de ce que le Tout-Puissant peut faire? Qui sommes-nous pour dire que Dieu ne peut pas, s'il le veut, prendre la forme d'un homme? Est-ce qu'on ne pourrait pas se rendre ainsi coupable d'un blasphème? Ou bien est-ce que Dieu est libre de se révéler tel qu'il est, au-delà de ce que l'homme comprend ou s'imagine? Comme dit le Coran, Allah connaît leur passé et leur futur, et de sa science, eux, il n'embrasse que ce qu'il veut.